Vous écoutez France Culture.
Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Hey, you know what? Troisième temps ce mercredi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la mythologie. Troisième temps, deuxième temps cette semaine. Donc ce mardi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la mythologie, c'est-à-dire à la mythologie grecque. Après Lucien Gerfagnon, revenu pour vous sur l'origine même du mythe, c'est Pierre Brunel qui vient ce soir vous parler du mythe de Sisyphe. Pierre Brunel, qui est professeur émérite à la Sorbonne et à qui on doit, entre autres, un ouvrage intitulé « Sisyphe et son rocher », écrit à quatre mains avec Aénéas Bastian et paru, comme il se doit, aux éditions du Rocher. Comme naissent les feuilles, ainsi font les hommes. Les feuilles, tour à tour, c'est le vent qui les épand sur le sol et la forêt verdoyante qui les fait naître quand se lèvent les jours du printemps. Ainsi des hommes, une génération naît à l'instant même où une autre s'efface. Il est une ville, Éphyre, au fond de l'Argolide, nourricière de cavales. Là vivait Sisyphe, l'homme entre tous habile, Sisyphe, fils d'Éole. Bonjour Pierre Brunel.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture.
Merci.
Pierre Brunel, première question, pourquoi Homère dans l'Iliade fait-il de Sisyphe le fils du dieu du vent, c'est-à-dire d'Éole? Quel rapport entre Sisyphe et le vent?
Alors je crois que d'une manière générale, les mythes grecs sont fortement liés aux éléments et que nous avons parfaitement le droit de les interpréter d'après ces éléments mêmes. Éole représentant le vent, dieu des vents, lié d'ailleurs au dieu des mers, Poséidon, est une figure homérique considérable, aussi bien dans l'Iliade que dans l'Odyssée. Le passage de l'Iliade que vous venez de lire le prouve, et dans l'Odyssée, il y a tout le passage d'Ulysse par l'île d'Éole, où il est plutôt malmené d'ailleurs par le dieu des vents qui obéit à Poséidon.
Alors, il faut rappeler pour mémoire que Poséidon en voulait à Ulysse, parce que Ulysse avait crevé l'œil de Polyphème.
Oui, il en voulait, à dire vrai, dès le point de départ, mais particulièrement à partir du moment où Ulysse a aveuglé Polyphème.
Revenons à Sisyphe. Quel rapport peut-il y avoir entre la condamnation de Sisyphe et cette ascendance? Entre le fait que cet homme soit condamné, on va voir d'ailleurs les motifs de sa condamnation et comment ça s'est fait, mais entre le fait que cet homme soit condamné à pousser sans cesse une pierre jusqu'en haut d'un rocher, enfin un rocher jusqu'en haut d'une montagne, avant que ce rocher ne dévale la pente dans l'autre sens, et ce à l'infini, et le fait qu'il soit le fils du vent.
Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs explications possibles. Il faut que nous nous fions à notre imagination pour cela. Et si vous me le permettez, je voudrais d'abord donner un souvenir vécu qui explique sans doute le goût que j'ai eu pour cette figure mythique. Je me rappelle très bien avoir passé une nuit d'été avec ma famille à Corinthe, une ville qui est saisissante par son relief même, par l'existence de cet acro-Corinthe sur lequel aurait été construit le palais ou peut-être le tombeau de Sisyphe.
Rappelons que Sisyphe était donc le tyran de Corinthe.
Le tyran de Corinthe, voilà. Et il se trouve que ce soir-là, où nous étions arrivés impromptu, ma famille et moi, à Corinthe, il n'y avait de place de chambre dans aucun hôtel. Nous avons fini par trouver un hôtel accueillant ou à moitié accueillant sur les hauteurs de Corinthe qui nous ont dit non, il n'y a plus de chambre, mais on peut vous installer un lit en plein air. Nous avons donc passé une nuit.
L'aubergiste s'appelait Procuste.
Quelque chose comme ça. Nous avons donc passé une nuit en plein air sur les hauts de Corinthe avec le passage des bateaux en bas, avec du vent qui soufflait. Et je me suis dit, là, nous sommes en pleine histoire de Sisyphe. Sisyphe sur ce rocher de la Crocorinthe, condamné à pousser dans l'au-delà un autre rocher, Sisyphe fils du vent, Sisyphe fils d'Éole, dans ce lieu haut qui est exposé au vent lui-même.
À cette différence près, Pierre Brunel, que vous aviez pu vous reposer, vous. Or Sisyphe, lui, ne connaît pas le repos.
C'est vrai, mais de quelle sorte de repos s'agit-il et de quelle sorte d'interdit s'agit-il?
Il faut revenir sur l'histoire. Hein. Pour l'auditeur qui n'a pas forcément en tête d'ailleurs les détails de cette condamnation.
Aux enfers, Sisyphe va être condamné à pousser éternellement vers le haut d'une colline un rocher qui retombe dès qu'il croit l'avoir poussé au sommet.
Mais pourquoi a-t-il été condamné ?
Il a été condamné pour des raisons diverses. L'une des raisons les plus fréquemment données est qu'il aurait bavardé. Hein. Là, c'est une autre forme du vent, le babil. Hein. Il aurait dénoncé à Autolycos, à un nommé Autolycos, le rapt de sa fille par Zeus lui-même. Hein. Donc victime, là, ni d'Éole, ni du dieu des mers Poséidon, mais du maître des dieux, Éole, Zeus lui-même.
Et puis ensuite, il a trompé la mort elle-même. Il paraît que Sisyphe avait demandé à sa femme, une fois qu'il était envoyé aux enfers, de ne pas l'honorer. Et que pouvant décemment se plaindre de cette négligence conjugale aux enfers, il a été renvoyé ensuite au-dessus, donc à la surface, et qu'évidemment ensuite il a refusé de revenir.
Je compare dans le livre... cette histoire à la fable de la mort et le mourant de La Fontaine. Et je crois que c'est vraiment de quelque chose de ce genre qu'il s'agit. Sisyphe, au fond, un supervivant, un homme qui a eu tous les pouvoirs pendant sa vie, voit un jour se présenter la mort. Et c'est une chose qu'il ne peut pas comprendre. Il s'y oppose, il refuse, il enchaîne la mort.
Il la trompe deux fois.
Il la trompe deux fois. Bon, et puis finalement, il est bel et bien obligé de descendre aux enfers. Et là, il invente une fable, véritablement, qui devrait lui permettre de revenir temporairement sur Terre. Cette fable, c'est qu'il n'a pas eu de tombeau. Il n'a pas été enterré, il n'a pas été inhumé. Et la croyance des anciens était qu'une ombre... était condamnée à errer sans cesse si elle n'avait pas été inhumée. C'est l'histoire de Polynice.
Le frère d'Éthéocle, ça se sent. Alors là c'est une autre histoire.
Et c'est le livre auquel Pascal Quignard a donné le titre, Les Ombres Errantes. Hein.
Il faut rappeler quand même pour mémoire, hein, le Polynice dont vous parlez, c'est le frère d'Éthéocle, ce sont les frères d'Antigone.
Oui.
Et la raison de la condamnation d'Antigone, c'est que Créon, pour des motifs tout à fait politiques, l'oncle d'Antigone, a choisi de rendre les honneurs funéraires
à
Éthéocle, négligeant Polynice, désignant Polynice comme bouc émissaire à la
foule.
Et
Antigone
finalement
est condamnée à mort à son tour parce qu'elle a osé inhumer Polynice, donc lui permettre de bénéficier d'une véritable entrée dans le monde des morts et d'y connaître cette sorte de repos ou de non-repos. Nous allons peut-être reprendre la question tout à l'heure, qu'on y connaît.
Oui, parce qu'on sait l'importance donc qu'a l'inhumation chez les Grecs. Reste à comprendre maintenant le sens de cette métaphore. Un homme qui trompe la mort et qui se retrouve condamné alors à un travail sans répit ou sans repos.
Voilà. Alors j'aime beaucoup l'expression que vous utilisez. Il trompe la mort, c'est le surnom de Vautrin dans les romans de Balzac,
hein,
et Sisyphe est une sorte de pré-Vautrin, mais Vautrin trompe la mort sur Terre, Sisyphe trompe la mort à la fois sur Terre et aux enfers et dans la mort elle-même. Il invente donc cette histoire, il n'a pas été inhumé, sa femme a négligé de lui élever une tombe, il a donc droit à revenir sur Terre pour régler ce problème, au fond ce problème de succession. Seulement, une fois revenu sur Terre, il n'a plus aucune envie d'en repartir et il faut de nouveau qu'on vienne le chercher. C'est cette fois-ci le dieu Hermès qui sert toujours d'intermédiaire entre Zeus et les hommes qui vient le chercher. Moi, je dis que Hermès est le véritable médiateur de la mythologie antique. Dès qu'il y a une tâche délicate comme cela, il en est chargé. C'est lui qui vient demander à Calypso de libérer Ulysse dans l'Odyssée et c'est lui qui vient ici rechercher ce Sisyphe déjà mort, redevenu vivant et qui entend le rester.
Oui, le dieu des voleurs qui est également le dieu ambassadeur, le légat, l'émissaire finalement des autorités divines. C'est presque l'intermédiaire d'ailleurs entre les dieux et les hommes, Hermès.
Exactement. Exactement.
Alors, revenons un instant sur cette question du vent. Je voudrais vous, puisqu'on a décidé ensemble, Pierre Brunel, pour cette émission sur Sisyphe, de faire travailler l'imagination, je voudrais vous proposer une interprétation tout simplement autour de la question du vent ou cette filiation avec le vent. Après tout, pourquoi pas la particularité du vent, c'est qu'il allie le hasard et la nécessité. Le hasard, dans la mesure où on dit du vent qu'il va où il veut, que l'air est libre, le vent est une figure de l'arbitraire souverain. La nécessité en même temps, dans la mesure où le vent obéit à des lois extraordinairement précises qui dépendent des écarts de pression entre différentes zones du globe. Et d'ailleurs, on peut prédire le vent. Donc il y a ce mélange de hasard et de nécessité dans le vent. Or, la condamnation de Sisyphe, et je voudrais qu'on revienne sur elle, la condamnation de Sisyphe concilie ces deux dimensions. Le hasard, dans la mesure où il ne va nulle part, il marche sans se rendre quelque part, de façon générale. D'ailleurs, Sisyphe ne se rend jamais ni nulle part. Et de l'autre côté, la nécessité absolue qui le porte à faire tous les jours le même chemin sous l'effet d'une condamnation. Est-ce qu'une telle interprétation est recevable ?
Oui, certainement. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question aussi. Je voudrais vous suggérer deux pistes de réflexion. La première concernant le vent. Vous avez absolument raison sur ce que vous dites. Et les vents ont une importance énorme dans la littérature grecque et dans la mythologie grecque. J'en vois deux exemples immédiatement.
Lesquels ?
Il y a Iphigénie à Aulide, quand les vents sont suspendus et l'expédition contre Troie ne peut pas partir. Il faut donc qu'Agamemnon sacrifie sa propre fille Iphigénie pour que le vent se lève et pour que l'expédition parte. Et puis il y a un autre exemple magnifique dans l'Énéide, puisque de la même manière...
C'est le départ d'Énée quand il abandonne Didon ?
Voilà, avant cela, il y a un suspens qui finalement est surmonté pour que Énée puisse enfin partir et atterrir sur la côte de Carthage, donc sur le rivage des Sirtes. Hein.
Et puis le vent aussi est une punition éventuellement quand les compagnons d'Ulysse sacrifient les vaches sacrées d'Hélios.
Alors les ouragans se lèvent et les précipitent dans la mer, hein. Ça c'est évident. Il y a les deux choses. Il y a le châtiment par les vents déchaînés et il y a ce châtiment qui est constitué par les vents suspendus. Et c'est là que je vous suggère la deuxième piste de réflexion. Le châtiment de Sisyphe, ce n'est pas un châtiment par le vent, c'est un châtiment par la pierre. C'est donc un châtiment par ce qui devrait être l'immobilité. Il y a dans Pindare une expression magnifique qui, à mon avis, est très éclairante. C'est l'itinos thanatos, la mort de pierre. Or, ce Sisyphe qui a refusé la mort, ce Sisyphe qui se trouve par deux fois obligé pourtant de rejoindre le pays des morts, il y est condamné à pousser la pierre, qui peut être la représentation de la mort elle-même.
Mais
il est véritablement condamné à la mort.
Mais Pierre Brunel, avant d'envisager la minéralisation de Sisyphe, il faut quand même noter ce paradoxe insensé qui est que cet homme qui se minéralise incarne également un mouvement qui, comme le dit par exemple Kirsti Simonsouri, c'est vous qui en parlez, qui est une spécialiste finlandaise du mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, c'est le mouvement même des vagues au bord de la mer corinthienne. Elle dit ceci, le bruit de la mer qui se reflétait dans le travail de Sisyphe, sans fin et sans but et recommençant chaque jour, était une allégorie de la vie humaine. Avant de se minéraliser, il est le mouvement perpétuel.
Oui, mais le mouvement perpétuel n'est-il pas une forme d'immobilisation ? La mer toujours recommencée. Et d'autre part, le mouvement qu'accomplit Sisyphe en poussant une pierre qui retombe et qui revient perpétuellement à son point de départ, c'est un mouvement inutile. Je compare dans le livre cette action ou cette inaction à Grabot dans la voie royale de Malraux. Hein, Grabot qui tourne indéfiniment une meule. Hein. Eh bien, le mouvement de Sisyphe, c'est également cela. C'est à la fois le mouvement et le non-mouvement. Vous vous rappelez le titre du très beau premier recueil d'Yves Bonnefoy, du mouvement et de l'immobilité de Douve. Moi, je vois dans le mythe de Sisyphe ceci, un mouvement qui est en même temps une immobilité ou une immobilisation, en tout cas quelque chose qui semble condamné à l'inutilité.
Le vent, la pierre et l'eau, donc, seraient les trois éléments du mythe de Sisyphe, d'où le feu, pour le coup, est tout à fait absent. Il va aux enfers, mais il n'en subit jamais la prise.
Oui, mais alors, moi, j'imagine Sisyphe vivant, hyper vivant, comme je le disais tout à l'heure, comme un homme qui a joué de tous les éléments réunis. Hein. Le soleil sur la mer de Corinthe et sur les hauteurs de Corinthe, il en a joui tellement qu'il n'a aucune envie de les quitter.
Il n'a aucune envie de les quitter. Et en même temps, cet amour immodéré de l'existence est également ce qui le porte à être... Alors, vous avez l'avez dit, il est condamné à mort. Il est condamné à mort au sens où il est condamné à une forme d'immobilité qui serait contenue dans un mouvement perpétuel. Mais cette condamnation à mort, si j'ose dire, est quand même une condamnation à vie. C'est une condamnation à vivre. C'est une condamnation à vivre sans jamais avoir l'issue, précisément, qui viendrait le soulager. Le drame de la condamnation de Sisyphe, ça n'est pas d'avoir à faire quelque chose d'absurde, c'est que cet absurde n'a pas de fin.
J'ai parlé beaucoup plus que de condamnation à mort, de condamnation à la mort. Or,
c'est vrai, c'est pas la même chose.
Ça n'est pas la même chose. Or, la mort, telle que l'envisagent les Grecs, ce n'est pas une immobilisation absolue. Hein. C'est la continuation dans le monde des morts d'une action qui est le pâle reflet de leur vie durant leur existence. Et c'est là, à mon avis, qu'on peut introduire quelque chose qui me paraît fondamental dans le mythe de Sisyphe, c'est que quelque part, son action, entre guillemets, dans la mort, est l'analogue de ce qu'a été son action dans la vie. C'est là qu'il faut introduire, à mon avis, l'analogie entre ce qui a été son action essentielle en tant que tyran de Corinthe, de construire des monuments délirants sur les hauteurs de Corinthe, avec des matériaux dépassant les forces humaines, et ce qui va devenir, de manière dérisoire, son action dans la mort, où il va pousser ce rocher que, quand il était tyran, les esclaves, sur ses ordres, poussaient vers le sommet de l'Acro-Corinthe.
Sisyphe, le mythe de Sisyphe, est également une parabole. Alors peut-être pour l'auditeur, d'ailleurs, l'une des portes d'entrée vers le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe étant lui-même une des portes d'entrée magnifiques vers la philosophie, vers la pensée et la littérature. D'ailleurs, tant les occurrences du mythe de Sisyphe sont nombreuses. Hein, on va en voir quelques-unes avec vous, Pierre Brunel. Mais on pourrait entrer dans le mythe de Sisyphe par l'expérience même de la routine. Le livre d'Albert Camus, le mythe de Sisyphe, qui finalement est... étouffe sous le poids de sa propre postérité, dont on parle trop pour le lire encore et qu'il faut relire parce que c'est un chef-d'œuvre, qu'il y a des choses magnifiques dedans. Le livre de Camus est un livre sisyphéen de part en part et il raconte notamment ceci. Camus, il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Le moment du pourquoi que décrit Albert Camus, qui est une expérience que peut faire tout homme dont la vie est réglée parce qu'il a un travail et que c'est métro, boulot, dodo. Le moment du pourquoi, ce moment-là, c'est le moment où Sisyphe regarde son rocher tomber, n'est-ce pas, et qu'il s'en sépare.
Alors, métro, boulot, dodo, si ma mémoire est bonne, ça a été créé par Pierre Béarn, le poète disparu récemment.
Hein, je vous rends hommage, là, c'est bravo.
À 102 ans, je crois. Hein. Et je pense que c'était quelque chose qui effrayait beaucoup les gens à un certain moment, plus qu'aujourd'hui. Et le grand mérite d'Albert Camus a été justement de dépasser cette sorte de monotonie du quotidien pour nous faire prendre conscience que c'est vrai, nous sommes comme des Sisyphes qui poussons notre rocher, mais il y a dans la conscience même de vivre de cette façon et dans la lucidité avec laquelle nous faisons
face à cette situation, de quoi remplir le cœur d'un homme.
De quoi remplir l'existence d'un homme.
Absolument. Et qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Restons un instant sur Albert Camus avec vous, Pierre Brunel. Dans quelle mesure peut-on imaginer Sisyphe heureux?
Alors, je pense qu'il ne faut pas du tout imaginer ce bonheur-là comme un bonheur souriant, comme un bonheur volontaire, voluptueux, hein, mais une satisfaction de la conscience qui comprend ce qu'elle vit.
Alors, est-ce que c'est une satisfaction de la conscience ou est-ce que ça n'est pas un bonheur qui ne viendrait pas de l'extérieur, un bonheur qui finalement résiderait dans la seule activité? En somme, il arrive que nous fassions les uns les autres des choses pour le simple plaisir de les faire, que nos gestes soient à eux-mêmes leur propre fin. Quelqu'un qui danse, par exemple, ne danse que pour danser. Est-ce que le bonheur de Sisyphe ne renvoie pas à une activité qui serait à elle-même sa propre fin, alors qu'en général, on suspend le bonheur à la réussite, à l'obtention de quelque chose, et qu'en somme, est-ce que le mythe de Sisyphe nous permet pas de penser ce bonheur qui s'apparenterait davantage d'ailleurs à la joie qu'au bonheur?
Je n'imagine pas le bonheur de Sisyphe, poussant son rocher et le voyant éternellement retomber, comme un enfermement passif dans une routine, mais je l'imagine bien davantage comme une prise de conscience, une compréhension de ce qui lui arrive. Au fond, c'est une manière de vivre pleinement la mort, comme il a vécu pleinement la vie.
Pour soulever un poids si lourd, Sisyphe, il faudrait ton courage. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. Loin des sépultures célèbres, vers un cimetière isolé, mon cœur, comme un tambour voilé, va battant des marches funèbres. Main joyau d'or enseveli dans les ténèbres et l'oubli, bien loin des pioches et des sondes, maintes fleurs épanchent à regret son parfum doux comme un secret dans les solitudes profondes. Quelques mesures d'un opéra de Horst Lohse, Sisyphos, à la mémoire d'Albert Camus. Pour cette émission avec vous, Pierre Brunel, qui est venu nous parler du mythe de Sisyphe et qui avait signé à quatre mains un ouvrage tout à fait passionnant sur Sisyphe et son rocher, c'est le titre, paru aux éditions du Rocher, je ne m'en lasse pas, à quatre mains avec Aeneas Bastian. Pierre Brunel, juste avant qu'on entende quelques mesures de Sisyphos, je vous ai lu le texte que vous connaissez par cœur, le Guignon de Baudelaire, dans lequel il dit notamment « L'art est long et le temps est court ». Qu'est-ce que Baudelaire signifiait dans cette formule aussi étincelante qu'absconce ?
Alors, à mon avis, Baudelaire illustre dans ce poème l'impatience d'un auteur qui voudrait être connu et qui ne parvient pas à se faire connaître. Et il désespère du temps, justement, parce que ce temps...
C'est fou comme les formules les plus étincelantes ont des motifs les plus triviaux.
Ce temps si long ne lui permet même pas d'obtenir la notoriété après laquelle il court. Cette formule est, autant que je me souviens, empruntée à Hippocrate. Car ce poème est fait de citations, curieusement. La citation d'Hippocrate, la citation de Longfellow, le poète anglais élégie dans un cimetière anglais, plus cette image mythologique qui vient couronner le tout.
De sorte que la condition du poète chez Baudelaire serait partagée entre le statut platonicien de l'albatros, celui que ses ailes de géant empêchent de marcher, qui, comme dit Socrate, converse avec les dieux mais ne sait pas assaisonner un plat, et la figure de Sisyphe soulevant son rocher vainement.
Le premier titre du poème, c'est un poème d'extrême jeunesse de Baudelaire, et on le date habituellement de 1842. Le premier titre a été « L'artiste inconnu ». Et c'est l'artiste, justement, qui désespère de se faire connaître. Il est enfermé dans un temps. Ce n'est pas comme Sisyphe qui, au terme d'une existence qu'on peut imaginer longue et malgré lui, se trouve finalement enterré. L'artiste, là, il est enterré, il n'arrive pas à sortir de la tombe de la méconnaissance ou de l'inconnaissance dans laquelle il se trouve.
Je vis également Sisyphe en proie à ses tourments. Il soulevait de ses deux bras un rocher gigantesque. Arc-bouté des pieds et des mains, il poussait ce grand bloc vers le sommet d'une hauteur. Mais à peine allait-il le faire basculer qu'il retombait de tout son poids et le bloc, sans pitié, roulait de nouveau vers la plaine. Mais lui recommençait, bandant ses muscles. La sueur ruisselait sur son corps et la poussière le nimbait. Et ça, c'est la deuxième occurrence de Sisyphe.
L'Odyssée.
C'est l'Odyssée, donc chez Homère. Et c'est Ulysse qui voit le supplice de Sisyphe aux enfers.
Alors, je voudrais vous faire observer combien c'est curieux, puisque le chant 11 de l'Odyssée, la fameuse Nequia, l'évocation des morts, devrait être, d'un bout à l'autre, une montée des ombres des morts vers Ulysse, qui se trouve sur Terre, qui a creusé une fosse, qui, à l'aide de
rites... Il a commis
rites,
un sacrifice également pour faire venir les morts, non ?
Fait venir les morts à lui. Alors, monte l'ombre de sa mère, monte l'ombre de Tirésias, etc. Mais comment imaginer, avec le poids de la pierre, que l'ombre de Sisyphe poussant son rocher puisse monter jusqu'à Ulysse? Il y a là une sorte de contradiction qui a d'ailleurs été soulevée par les commentateurs de l'Odyssée.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et alors, qui a favorisé la thèse des désintégrateurs qui pensent qu'il y a eu des accumulations.
Qui a favorisé la thèse selon laquelle Sisyphe ne porte pas de pierre?
Non, enfin, dans l'érudition qui a favorisé la thèse selon laquelle se sont trouvés mêlés aux éléments originels de l'Odyssée des éléments nouveaux qui étaient en contradiction avec ce qui se trouvait à l'origine. Il y aurait donc des éléments d'une descente aux enfers qui viendraient interférer avec ce qui devait être à l'origine une évocation des morts. Parce qu'une fois de plus, le rocher de Sisyphe, on ne le voit pas monter comme ça, comme une bulle de savon du fond des enfers sur la terre. Bon, là, moi, j'interprète cela beaucoup plus comme des visions. Et on n'a pas besoin d'imaginer matériellement un rocher qui monte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, d'ailleurs, un rocher dans le monde des morts, hein? Mais la vision monte, le fantasme, au sens grec du terme, monte jusqu'à Ulysse, et il voit ces trois condamnés, Tantale d'abord, qui est condamné à une faim et une soif éternelle, Sisyphe ensuite, qui est condamné à pousser son rocher, et finalement Tityos, qui, autant que je me souvienne, est comme Prométhée rongé par un vautour.
Mais alors, d'ailleurs, on a parlé de l'ascendance de Sisyphe, dont Homère fait le fils d'Éole. D'autres ont cru bon d'en faire le père d'Ulysse. Hein.
C'est tout à fait vrai, et alors le nom même est...
Au motif qu'il était rusé, lui-même.
Le nom même est troublant à cet égard. Si on adopte l'interprétation courante, Sisyphe viendrait de C. Sophos, avec un redoublement, c'est-à-dire le sursage, en quelque sorte, hein, le surintelligent, le surrusé, et se mettre en ruse serait donc le père spirituel ou intellectuel d'Ulysse au mille tours, d'Ulysse de l'Odysseus Polytropos de l'Odyssée.
Alors, dans le commentaire que vous donnez du nom de Sisyphe, Pierre Brunel, vous expliquez que la sonorité S accompagnée du Z est presque menaçante, comme si le nom de Sisyphe portait déjà en lui le châtiment qui s'abattra sur lui.
Il y a quelque chose là du sifflement des Érinies à la fin de...
Ou des serpents qui sifflent sur nos têtes.
Absolument, il y a quelque chose d'incisif, en tout cas, sans jeu de mots, dans ce Sisyphe-là. Et cette espèce de bourdonnement de mouches, de bourdonnement d'insectes, moi je l'entends dans ce nom de Sisyphe.
Est-ce que de ce point de vue, d'ailleurs, l'appel que Baudelaire lance à Sisyphe, hein, quand il parle de Sisyphe, il faudrait ton courage, n'est-ce pas? Ça n'est pas celui qu'on lance à un intercesseur qui finalement occuperait la place qu'occupe Hermès dans la mythologie.
Oui, c'est-à-dire que Baudelaire a l'impression que lui, vivant ou vivant à la mesure du vivant, n'a pas l'énergie suffisante, n'a pas la force suffisante pour poursuivre aussi longtemps une expérience aussi pénible.
Ce qu'on entend en ce moment, Pierre Brunel, avec vous, c'est Horslos de nouveau, la mort d'Orphée. C'est à François Connac, d'ailleurs, qu'on doit toutes ces merveilles. François Connac est un mélomane averti, notre réalisateur, et qui connaît tout, et qui, par conséquent, a exhumé ça de sa musette tout à l'heure, ce qui tombe assez bien.
Merci, parce que je ne connaissais ni l'une ni l'autre de ses œuvres. C'est un véritable enrichissement pour moi.
Ça l'est également pour tous ceux qui travaillent au nouveau chemin de la connaissance, je peux vous dire. Alors, justement, la mort d'Orphée, c'est à dessein qu'on entend quelques mesures de cela, parce que dans la catégorie des trompe-la-mort, Orphée est presque plus fort que Sisyphe, d'une certaine façon. Cette façon qu'il a d'aller chercher Eurydice. On en a parlé hier avec Lucien Gerfagnon, et je voudrais revenir avec vous sur cet épisode, Pierre Brunel.
Alors, Orphée est extrêmement rusé à sa manière, parce que quand il arrive, quand il descend aux enfers, quand il se présente devant les dieux des morts, Hadès et Perséphone, ou chez les Latins, Pluton et Proserpine, ils évoquent leur propre histoire à eux. Hadès a fait enlever Perséphone sur Terre pour l'entraîner aux enfers, et en racontant sa propre aventure.
De là la naissance des saisons, d'ailleurs.
Voilà, la manière dont Eurydice a été enlevée, et lui a été dérobée et descendue aux enfers. Il touche la corde sensible des dieux des morts.
C'est le cas de le dire. Alors, il fait jouer la corde sensible, mais c'est également avec sa lyre qu'il trompe la mort.
Alors, il y a les deux. Il y a à la fois, si je puis dire, la sésophie, l'astuce extrême telle qu'elle est illustrée par Sisyphe, et en même temps, ce complément qu'on ne connaît pas pour Sisyphe, qui est l'usage de la lyre, l'usage de la parole et le charme au sens le plus fort du terme de la poésie chantée. Si on devait trouver un intermédiaire entre les deux, ce serait Ulysse, parce que Ulysse, qui est aussi le très rusé en digne fils de ce peut-être père qu'est pour lui Sisyphe.
Attendez, qui est le père de l'autre ?
Sisyphe, père d'Ulysse.
Sisyphe, père d'Ulysse, on est d'accord.
Sisyphe, père d'Ulysse. Et en même temps, Ulysse est capable, chez les Phéaciens, de prendre la lyre, de faire taire la haie de cour, Démodocos, et de chanter lui-même ses propres exploits et ses propres aventures.
Mais alors, revenons à l'épisode orphique. Cette aptitude à tromper la mort, comme pour Sisyphe d'ailleurs, est-ce que c'est une des modalités de ce que les Grecs désignent à travers leur mythe d'ailleurs, comme ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire la démesure ? Est-ce que l'une des modalités de la démesure, c'est de tromper la mort, ou est-ce que, étant donné le statut poreux des enfers, la mort est moins un obstacle ? En somme, est-ce que l'hubris, c'est Sisyphe qui construit des châteaux à Corinthe, ou est-ce que l'hubris, c'est Sisyphe qui trompe la mort ?
Alors, pour moi, Sisyphe est une illustration parfaite de l'hubris. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles il est fils d'Éole. Éole, le vent, c'est un élément excessif. Et j'ai été très frappé par cela aussi quand je suis allé en Roumanie, que j'ai vu les constructions gigantesques, si je puis dire, sisyphéennes de Ceaușescu. Je me suis dit, ça, ce sont des édifices à la manière de Sisyphe, ce sont des édifices hybristiques. Et l'hybris, chez les Grecs, appelait condamnation. Peut-être aussi dans notre monde actuel, l'exemple de Ceaușescu le montrerait en tout cas.
Mais alors, on est d'accord pour dire que la mégalomanie du tyran est un modèle d'hubris. Bon, mais tromper la mort. Parce qu'on dirait aujourd'hui qu'un savant fou qui veut absolument résoudre le problème de la mort céderait justement à la démesure. Frankenstein est une figure de l'hubris. Que dire de Sisyphe ? Est-ce que du point de vue des Grecs, on est en présence d'un cas d'hubris ?
Mais écoutez, je ne suis pas sûr que
hubris ou malice, voilà.
Je ne suis pas sûr que le point de vue des Grecs soit si différent du nôtre, Raphaël Entoven. Je vais faire allusion à une expérience que vous avez, comme moi, des personnes aujourd'hui qui sont en situation de pouvoir. Dans quel ordre que ce soit, ils s'imaginent que ce pouvoir est éternel et leur hubris est là. Le Thanatos qui va survenir, ils ne l'imaginent pas. Et le jour où le Thanatos, quelle que soit sa forme, vient les saisir, ils ont la réaction de Sisyphe quand la mort se présente à la porte de son palais. Je crois que c'est un usage hubristique du temps. Et en particulier un usage hubristique du temps qui est dévolu à l'être humain.
Sisyphe savait qu'il serait rattrapé par la mort quand il l'a trompé. Il savait qu'il finirait par mourir. Il savait qu'il serait puni, vraisemblablement. Et est-ce qu'on peut dire que c'est en conscience qu'il a choisi quelques années de vie supplémentaire contre un châtiment éternel ou bien que c'est une preuve d'insouciance de sa part, d'incurie finalement, de culte du présent qui lui fait négliger la toute éthique de responsabilité en somme.
Imaginez un instant qu'il n'ait pas utilisé la ruse qu'il a utilisée pour revenir sur Terre. Imaginez un instant qu'il n'ait connu que sa première mort et qu'il soit resté aux enfers. Croyez-vous que l'existence souterraine qui lui était promise ait pu être pour lui une existence enviable ? Rappelez-vous la plainte d'Achille, justement, quand il rencontre Ulysse dans le chant 11 de l'Odyssée.
Il dit la postérité Achille ne vaut rien.
Achille qui dit qu'il préférerait être le dernier des esclaves sur Terre à se trouver roi dans les enfers. Pour Sisyphe, c'est la même chose. Pour cet homme qui a connu la puissance suprême dans sa ville et dans son royaume de Corinthe, se retrouver dans le monde des morts, de toute façon, c'est une telle dévaluation que c'est insupportable.
C'est intéressant ce que
vous dites. Pierre ou qu'on ne roule pas la pierre.
Je crois me souvenir de mémoire, mais nos auditeurs érudits me démentiront peut-être, que dans le mythe d'Ère le Pamphylien, à la fin de la République, on propose à chacun de choisir sa vie. Alors évidemment, se pose la question de savoir si on est l'artisan du destin qu'on a. Enfin, c'est toute la problématique sur le destin et la liberté. À Ulysse, à qui il reste finalement peu de vie en partage, en somme, il ne lui reste plus qu'une existence tout à fait modeste, humble, d'un homme parfaitement méconnu, etc. Et Ulysse fils dit au moment de choisir cette vie qu'il n'en aurait pas choisi d'autre, comme s'il avait d'ailleurs lui-même retenu les leçons d'Achille dans l'Odyssée.
Mais vous connaissez les suites d'Ulysse qui ont été imaginées et qu'au fond, la prophétie de Tirésias laisse déjà à deviner dans le champ.
Tirésias, c'est le devin.
Tirésias, c'est le devin. Ulysse peut très bien revenir dans son île et s'y ennuyer tellement qu'il repart... qu'il reprend la mer, qui va jusqu'au fin fond de l'océan Atlantique, comme l'a imaginé Dante dans le champ 26 de l'Enfer.
Mais c'est-à-dire qu'effectivement, restons un instant sur Ulysse avec vous, Pierre Brunel. Ulysse, hein, après son périple, après son odyssée, après ses 20 années paraboliques ou allégoriques ou métaphoriques, en tout cas ses 20 années à traverser les océans et à faire la guerre, il arrive chez lui, il tue les prétendants, il retrouve sa femme, il retrouve son fils... Le lendemain matin, il se réveille et il s'ennuie.
Oui, dans la présentation d'Homère, ça n'est tout de même pas exactement cela, parce que si vous lisez les derniers vers de l'Odyssée, il se trouve confronté à une nouvelle guerre dans son île même. S'il se laissait entraîner, on aurait une sorte de petite Iliade, et c'est Zeus lui-même qui impose la paix et qui fait taire la guerre civile dans l'Odyssée. C'est donc Zeus là, qui a le dernier mot. Mais on n'en sait pas plus. Hein. Homère suspend là le cours de la vie d'Ulysse. À nous d'imaginer la suite. Et nous avons quand même quelque chose pour l'imaginer, qui est ce qu'a prophétisé Tirésias, annonçant qu'il connaîtrait une mort venant, avec toute l'ambiguïté de l'expression en grec, exhalos, venant de la mer ou se situant en dehors de la mer. Il repartirait avec sa rame sur l'épaule. Hein. La fin de l'Odyssée n'est pas la fin de l'existence d'Ulysse. Voilà ce qu'il faut bien dire. Et moi, je ne crois pas du tout à un Ulysse revenu
satisfait
dans sa maison,
dans,
satisfait
dans la plénitude
d'avoir
bonheur
retrouvé
conjugal.
Sa femme et vivant sa petite vie d'Ithaque.
Alors, est-ce que, pour en revenir à Sisyphe, est-ce que l'opposé, l'antithèse de Sisyphe, parmi les grands condamnés, ça n'est pas Tantale, au sens où Tantale serait celui que l'on condamne à avoir faim, à qui on représente des mets délicieux et qu'on s'arrange pour situer un tout petit peu hors d'atteinte en permanence. Est-ce qu'en somme, d'un côté, on n'aurait pas Tantale, le héros métaphysique, qui se donne un but au-delà de lui-même et que ce but aiguillonne parce qu'il est mu par le manque et par le besoin, et de l'autre côté, Sisyphe, qui alors lui ne souffrirait non pas du manque, mais au contraire du trop-plein d'une activité qui est à elle-même sa propre fin, l'étouffe sous son poids de pierre. Est-ce qu'en somme, on ne peut pas opposer Sisyphe à Tantale comme deux rapports au monde, l'un métaphysique et l'autre immanentiste ?
Opposition, oui, mais aussi analogie.
Pourquoi ?
Parce que l'un et l'autre ont cherché à tromper les dieux. Rappelez-vous, Tantale a...
Non, rappelez-moi pourquoi Tantale a été condamné, je ne m'en souviens plus.
Tantale a offert, autant que je me souvienne, aux dieux des mets qui étaient interdits. Hein, et il a essayé aussi de dérober le nectar et l'ambroisie des dieux. Hein, et de la même manière, Sisyphe a essayé de tromper les dieux en enchaînant la mort. Hein. La faute à cet égard est analogue. Ce que les Grecs n'admettent pas, c'est cela. C'est l'homme
mais la nature
si rusé ouais. qu'il essaie d'exercer sa ruse sur les dieux eux-mêmes.
Alors, mais la nature du châtiment, il y aurait une autre figure d'ailleurs à examiner de ce point de vue, c'est Prométhée. Trois grandes figures peut-être de l'humanité, Prométhée, avec Orphée, quatre. Orphée, Prométhée, Sisyphe et Tantale. J'ai presque envie, mais dites-moi si j'ai tort, Pierre Brunel, de les présenter comme des couples. Orphée d'un côté, Prométhée de l'autre. Prométhée au sens de l'homme fabricateur, démiurgique, prométhéen qui s'empare de son destin, qui veut supplanter les dieux, en somme, leur dérober le feu et qui se retrouve.
Prométhée a trompé les dieux.
Hein. Pareil. Orphée, au contraire, comme l'homme de la cosmologie antique, c'est-à-dire celui qui s'inscrit à ce point dans un ordre naturel que ses mélodies font même chanter les pierres, comme par hasard. Et de l'autre côté, le couple Sisyphe-Tantale, l'un condamné à l'ici maintenant, à l'ici-bas permanent, et l'autre condamné à un supplice métaphysique à l'infini.
Est-ce Mais que vous c'est... voyez, moi je n'irai pas jusqu'à l'idéalisation absolue d'Orphée pour la même raison.
Ouais.
Orphée a donc séduit les dieux des enfers en leur racontant l'histoire de leurs propres amours, en quelque sorte, et en les attendrissant avec cela. Et il le laisse partir, mais avec une précaution terrible. Hein. Il ne doit pas se retourner, il ne doit pas regarder Eurydice qui est derrière lui. Et observez encore ceci, c'est que dans cette remontée vers la lumière du jour, il y a devant Orphée, il y a derrière Eurydice, et il y a, si je puis dire, un troisième larron, qui est un dieu, qui est Hermès lui-même. Toujours lui. Hein. Et au moment...
Mais quelle est la fonction d'Hermès ici? Est-ce que la fonction d'Hermès n'est pas de lui tirer l'oreille pour lui dire « regarde quand même »
Moi, mon idée, c'est que Hermès est là un peu comme surveillant. Hein.
Mais oui, mais est-ce qu'il n'est pas le surveillant des dieux, le mandataire des dieux?
Des dieux. Je suis entièrement de votre avis. Vous savez, il y a un magnifique poème...
Est-ce que ce ne sont pas les dieux qui ont trompé Orphée?
C'est eux qui ont fini par le tromper. Hein. Ils se sont méfiés et... l'instinct d'Orphée se retournant pour regarder Eurydice leur a donné raison à leur méfiance. Il y a un magnifique poème de Rilke dans les nouveaux poèmes de 1907 qui s'intitule Orphée, Eurydice, Hermès, Trois figures séparées par des points parce qu'en fait il y a une distance de l'un à l'autre, du premier au second comme du second au troisième.
Que dirais-tu si un jour, si une nuit, un démon se glissait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise « Cette vie telle que tu la vis maintenant et que tu l'as vécue, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Et il n'y aura rien de nouveau en elle, si ce n'est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement et tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et grand dans ta vie devront revenir pour toi et le tout dans le même ordre et la même succession. Cette araignée-là également et ce clair de lune entre les arbres et cet instant-ci et moi-même. » L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau, et toi avec lui, ô grain de poussière de la poussière. Ne te jetterais-tu pas sur le sol, grinçant des dents et maudissant le démon qui te parlerait de la sorte? Ou bien te serait-il arrivé de vivre un instant formidable où tu aurais pu lui répondre « Tu es un dieu, et jamais je n'entendis chose plus divine ». Si cette pensée exerçait sur toi son empire, elle te transformerait, faisant de toi tel que tu es un autre, te broyant peut-être. La question posée à propos de tout et de chaque chose, voudrais-tu ceci encore une fois et d'innombrables fois, pèserait comme le poids le plus lourd sur ton agir? Ou combien ne te faudrait-il pas témoigner de bienveillance envers toi-même et la vie pour ne désirer plus rien que cette dernière éternelle confirmation, cette dernière éternelle sanction? Ça, Pierre Brunel, c'est le paragraphe 341 du Gai Savoir, archi connu, intitulé « Le poids le plus lourd » ou « Le poids formidable », ça dépend. Le mythe de l'éternel retour, la version que Nietzsche en donne. L'analogie est quand même frappante avec la condamnation de Sisyphe et la condamnation à l'éternel retour qui offre aux condamnés la possibilité de s'en réjouir.
Et en vous écoutant, je me disais, quelle analogie avec Camus ? Justement, ça éclaire, ça illumine même la fin du texte, le mythe de Sisyphe.
Mais Camus est profondément nietzschéen, dans son rapport à la pierre d'ailleurs.
Alors je voudrais vous remercier beaucoup de cette lecture pour plusieurs raisons. La première, si vous le permettez, il se trouve que mon collaborateur pour ce livre, Enéas Bastian, est allemand. Lui-même, et dans le livre en question, des passages consacrés à la littérature allemande ou à la philosophie allemande doivent beaucoup à lui, en particulier le dernier chapitre sur...
Voulez-vous dire que vous allez échapper à la question sur l'éternel retour?
Non, mais je vais y revenir. Bon. Le dernier chapitre qui est consacré aux occurrences de Sisyphe dans la littérature allemande récente, la littérature allemande d'après-guerre, Günter Grass, Enzensberger, etc., tout cela vient de lui. Et l'éclairage par Nietzsche est du coup complètement confirmé par la collaboration d'un Allemand à cette entreprise même. Et j'ajoute même d'un jeune Allemand qui apportait en plus son dynamisme et son enthousiasme.
Oui, c'est du bon boulot, votre voilà. Livre. Hein,
alors, pour ce qui est de Nietzsche...
Mais alors, l'éternel retour, justement.
Pour ce qui est de Nietzsche et de l'éternel retour, je vais rappeler une vérité d'évidence. Je le fais quand même. Hein. Nietzsche était professeur de grec, en quelque sorte, hein, professeur de philologie grecque
oui,
à l'université de Bâle. Il en est très, très profondément marqué. Il sait donc parfaitement quelle est la conception que les Grecs avaient de la vie après la mort. Hein. Ça n'est pas du tout la même que nous, et nous avons du mal à imaginer cela. Pour un grec, la représentation classique de l'existence au-delà de la vie, c'était le recommencement de cette vie même, c'était un éternel retour, c'était en petit, c'était en miniature, c'était en ombre, c'était en inconsistant, ce qu'avait été l'existence du vivant. Et dans le cas de Sisyphe, c'est extrêmement frappant. Cet homme, je le rappelais tout à l'heure, qui a obligé ses subordonnés à pousser d'énormes rochers, le voilà recommençant ce qui a été le geste fondamental de son existence.
C'est ce qu'on appelle de la justice immanente, ça.
C'est à la fois justice et imitation, vous voyez, et recommencement. Et retour. Alors, ça peut être vécu, et c'est comme ça que nous le subissons au premier degré. Ça peut être vécu comme un châtiment abominable. Hein. On peut voir ça comme une sorte d'enfer dans les enfers antiques, ce qui n'est pas la vision des antiques, en fait. Hein. Et où on peut vivre ça comme un recommencement, mais un recommencement qui peut être vécu de manière beaucoup plus positive que nous l'imaginerions, jusqu'au Sisyphe heureux de Camus et jusqu'à cet éternel retour de Nietzsche qui peut être aussi une forme de bonheur.
De sorte que pour envisager Sisyphe heureux, il faut considérer que la question du sommet chez Sisyphe ne se pose pas. Quand Gide décrit le mythe de Sisyphe, il dit ceci: Sisyphe roule sans cesse vers un inatteignable sommet, la lourde pierre sans cesse retombante des soucis qui le tourmentaient du temps qu'il était roi de Corinthe. Car sache que dans les enfers, il n'est pas d'autre châtiment que de recommencer toujours le geste inachevé de sa vie. Je conteste. Sisyphe roule sans cesse vers un inatteignable sommet. Le sommet, il l'atteint. La difficulté, la problématique pour Sisyphe, ça n'est pas justement d'atteindre le sommet. C'est de sortir du cycle ou alors d'assumer le cycle pleinement.
Il est dans le cycle. Il tourne la roue de la meule.
De sorte que, est-ce qu'on peut faire de Sisyphe une métaphore de la nature elle-même? On a parlé tout à l'heure un peu de Perséphone, on aurait pu parler de Déméter. Est-ce qu'on peut faire de Sisyphe une figure de la palingénèse, de la renaissance éternelle, de ce qui est appelé à périr? En somme, la figure du phénix.
Oui, à cette différence près qu'on imagine la figure du phénix comme flamboyante et qu'il y a quelque chose de terne tout de même dans ce recommencement sisyphéen.
Ça dépend du rapport qu'on entretient avec lui. Quand le choix est laissé à l'interprète du démon dans le gai savoir, la possibilité lui est donnée de l'approuver dans la joie.
Oui, et puis il y a la lumière de la pensée qu'on peut très bien prêter à Sisyphe, c'est ce qu'a fait Camus.
Mais alors, revenons juste un instant pour terminer cette émission sur le moment où Sisyphe laisse tomber son rocher. Il arrive au sommet, bon, il ne va pas le pousser en bas, déjà il le pousse pour monter, il ne va pas le pousser pour descendre ou le retenir pour descendre, ce serait un surcroît de cruauté, de raffinement dans la cruauté. Est-ce que le moment où le rocher dévale la colline n'est pas le moment justement de la prise de conscience?
C'est ce que dit Camus. Hein. Le moment intéressant pour Camus, c'est celui-là. C'est le moment où le rocher recommence à descendre. Mais il y a une chose qui m'a frappé, j'y ai fait place dans ce livre, c'est ce texte étonnant de Michel Serre, où il dit « On pense toujours à Sisyphe, on ne pense jamais à la pierre. Et la chute de la pierre elle-même, et le sort de la pierre elle-même. » Comme si nous avions uniquement en tête le sort de l'homme, sans penser au sort des éléments. Et je reviens ici à votre idée, à votre thème de la nature. La nature est en fait elle aussi de recommencement.
Mais en même temps, le problème disparaît si, comme vous l'avez dit au début, Pierre Brunel, Sisyphe se minéralise.
Et le problème disparaît aussi si on conçoit, et c'est quand même légitime, la nature comme inconsciente.
On ne pouvait pas finir autrement cette émission qu'avec le boléro Pierre Brunel, hein, qui était à la fois la mélodie de l'éternel recommencement, mais également la mélodie d'une variation acquise à chaque recommencement. Alors pour mémoire, dans cette émission nous avons cité l'Iliade, dont le livre 6 évoque la figure de Sisyphe. La figure de Sisyphe revient également dans les chefs-d'œuvre d'Homère, dans l'Odyssée, dans le livre 11. Je signale également que, pour les amateurs d'analogie, le paragraphe 341 du Gai Savoir sur l'éternel retour peut être lu comme une interprétation du mythe de Sisyphe. Enfin, évidemment, Albert Camus, le mythe de Sisyphe, un chef-d'œuvre. Et puis, surtout, si j'ose dire, votre livre, Pierre Brunel, que vous avez écrit à quatre mains avec Aeneas Bastian, un livre tout à fait passionnant, dans la collection Figures et mythes des éditions du Rocher, intitulé donc « Sisyphe et son rocher ». Demain, dans les nouveaux chemins de la connaissance, c'est Bernard Sergent, l'historien et archéologue Bernard Sergent, que je recevrai pour évoquer la figure de l'Atlantide dans cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la mythologie. À la technique aujourd'hui, c'était Bruno Gagnère, à la réalisation François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Éléonore Clovis et Gabriel Alperne. France Culture, il est exactement 17h50, vous avez rendez-vous tout de suite avec Albert Jacquard.